Reprise de la campagne de prélèvement de requins. La décision de la mairie et de la province sud fait suite à la nouvelle attaque survenue mercredi soir. Les conseils municipaux se mettent en place sur le territoire. Hier soir, les élus étaient réunis à Dimbéa et à Païta pour des séances administratives et techniques. L'Iran prête à céder son uranium enrichi, c'est ce qu'affirme Donald Trump ce matin, alors qu'il s'agit d'un point essentiel pour un accord de paix selon les États-Unis et Israël. Ils sont la trame vivante de la République. Selon Emmanuel Macron, le président a reçu 500 maires à l'Élysée pour saluer leur action. Reportage dans ce journal. Le sport avec du football et Strasbourg qui reçoit Mayence depuis 6 heures. Quart de finale, retour de la Ligue Conférence. À l'aller, les Strasbourgeois avaient perdu 2-0. La météo en Nouvelle-Calédonie avec un large soleil sur la majorité du territoire aujourd'hui. L'alizé d'est-sud-est se renforce à 15 et 20 nœuds en général. Quant aux températures, elles sont stationnaires, comprises entre 28 et 30 degrés.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et elle a une l'actualité sur le territoire.
Oui, après l'attaque survenue mercredi soir à Nouméa, la mairie et la province sud relancent donc leur campagne de prélèvement. Des mesures prises alors qu'un homme de 38 ans a été transporté dans un état grave au Medipôle, Léana Colombo.
L'homme a été blessé alors qu'il pratiquait le VA en club au large de la Côte Blanche. La victime est le président du toit, Paeva. Il aurait été mordu en bas du dos et à la main par un requin bulldog. D'après les premiers témoignages, le squale aurait d'abord attaqué l'embarcation, ce qui aurait fait tomber le rameur dans l'eau avant de se faire mordre à 3 reprises. Ses coéquipiers lui ont porté secours et transporté jusqu'à la plage avant d'être pris en charge au Medipôle dans un état grave. Le caractère inhabituel de l'embarcation visée est à noter dans cette attaque de requin, souligne Claude Maillot, spécialiste de la faune marine dangereuse.
D'après la base de données que nous tenons, la première attaque sur une petite embarcation qui était recensée en Nouvelle-Calédonie. Alors, de façon un petit peu sporadique, m'ont été remontées, mais je n'ai jamais pu le vérifier, des histoires de percussions de rameurs par des requins. Mais c'est la première fois que le requin, si on peut dire, passe à l'acte et attaque le rameur. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le fait de se trouver sur l'eau, dans l'eau, à proximité du crépuscule, on sait très bien que c'est une période à risque d'attaque de requins. Le deuxième facteur qu'on peut mettre en avant comme facteur favorisant de la survenue de l'attaque, c'est le fait qu'il avait quand même beaucoup plu les jours précédents celle-ci, que par conséquent, on peut supposer que l'eau était plus trouble et que, pareil, c'est un facteur de survenue des attaques. Toutes mes pensées vont bien entendu à la victime à qui il faut souhaiter un bon et complet rétablissement.
Au lendemain de l'attaque, les messages de soutien sont nombreux sur les réseaux sociaux. La Ligue calédonienne de va et de canoë-kayak se dit profondément touchée. La Ligue adresse ses pensées les plus sincères au rameur attaqué, à sa famille, ses proches et les membres de son club de va. La dernière attaque de requin remontée à fin février. Un wingfoiler de 55 ans avait été retrouvé mort à Lansvata, attaqué et mordu à plusieurs reprises, selon les experts, par un requin-tigre.
Et rappelons que la mairie de Nouméa a pris hier matin un arrêté interdisant jusqu'à nouvel ordre la baignade et les activités nautiques. L'interdiction concerne l'ensemble du littoral de la commune dans la bande des 300 mètres, ainsi que l'îlot-maître et l'îlot canard. Les zones de baignade sécurisées et surveillées de la baie des Citrons et du Château Royal ne sont pas concernées par l'interdiction de baignade. Un sujet dont nous reparlerons ce matin avec Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Elle sera en effet notre invitée à 7h30.
À Radio Rythme Bleu, 6h34.
L'actualité institutionnelle, endiguer les départs des soignants, c'est l'objectif d'une délibération adoptée hier par les élus du Congrès. Et elle était très attendue d'ailleurs par les personnels de santé qui appelaient à la mobilisation pour soutenir l'adoption du texte, Léana.
Cette délibération vise à valoriser le travail des personnels des hôpitaux, notamment ceux qui servent depuis plusieurs années en Nouvelle-Calédonie. Face à la pénurie de soignants, le gouvernement a en effet travaillé sur l'attractivité du territoire pour faire venir des personnels de l'extérieur. Mais ceux qui étaient déjà en poste se sont sentis délaissés et désavantagés alors qu'ils avaient beaucoup œuvré ces dernières années, notamment lors des crises sanitaires ou sécuritaires. Plusieurs corps de métier ont été identifiés comme étant en pénurie et ils bénéficieront d'une bonification d'ancienneté avec un avancement d'échelon ainsi qu'une prime de stabilité. Des mesures justifiées selon Claude Gambet, le membre du gouvernement en charge de la santé.
Je suis très satisfait, mais ça fait plus d'un an qu'on travaille sur ce texte-là. Donc la bonification d'ancienneté, effectivement, c'est le reproche que faisaient, on va dire, les anciens. Ils avaient le sentiment qu'on en favorisait trop, les nouveaux. Il y avait certaines mesures qui étaient prises, comme la prise en charge des billets d'avion, des grilles attractives, etc., et qu'on ne faisait pas assez pour les anciens. Donc c'est quelque chose qui est réglé, donc c'est une question d'équité. Hein. Et puis pour la prime de stabilité, c'est pour encourager les personnes qui sont en poste à ne pas partir, notamment encourager les contrats à durée déterminée à postuler dans la fonction publique. Voilà, c'est destiné à ça, la poule de stabilité. C'était un équilibre qui a été trouvé avec les partenaires sociaux et les employeurs. On passait ça au Conseil supérieur de la fonction publique. Ça a été adopté. Donc aujourd'hui, c'est la finalisation de ce long parcours qui a duré près d'une année quand même.
La délibération a été adoptée par 31 voix et il y a eu 11 abstentions, celle des élus Unis et Éveil Océanien et celle de Marilyn Sakilia. L'adoption de ces mesures satisfont bien sûr le personnel soignant qui s'était réuni devant le Congrès, même s'il reste prudent, comme le déclare Emmanuel Soria, l'un des responsables santé de l'UTCFE-CGC.
C'est une bonne nouvelle, c'est une première étape qui a été actée concrètement. Ça donne de l'espoir et du concret pour les prochaines étapes qu'il ne faut pas oublier, qui sont le Ségur de la santé pour l'ensemble des personnels de santé. Donc les élus ont bien précisé et bien acté le remerciement à l'ensemble des personnels et ont bien parlé des deux étapes. Donc nous sommes très satisfaits dans ce périmètre-là. Le Ségur de la santé, les ateliers sont en cours. Il y aura 3 journées thématiques qui seront déterminées au mois de mai. On voit bien que le parcours institutionnel peut, en dehors des décisions et des ateliers, prendre beaucoup plus de temps, comme là, plus de 9 mois après que le texte ait été déposé. Donc nous sommes prudents, mais satisfaits.
Une centaine de personnes s'étaient rassemblées devant le Congrès à l'appel de l'UTCFE-CGC et de la FEDE pour soutenir l'adoption de ce texte. Et une délégation avait d'ailleurs été entendue par le bureau du Congrès avant l'ouverture de la séance. Le syndicat des infirmiers et des aides-soignants des urgences se félicite lui aussi de l'adoption de la phase 1 de la réforme du système de santé après presque 2 ans de mobilisation. Mais il affirme que le plus dur reste à venir. Il estime indispensable une réforme de fond pour redonner sens et reconnaissance en leur métier et pour construire une réponse durable pour la santé en Nouvelle-Calédonie.
Et toujours dans le domaine de la santé, les élus du Congrès ont aussi fixé le taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières pour l'exercice 2026. C'est ce qui détermine le budget annuel des hôpitaux et c'est un taux de 2,45% qui a été proposé par le gouvernement. Délibération adoptée par 33 voix. Il y a eu 5 abstentions venues des rangs de l'intergroupe Éveil Océanien Calédonie Ensemble.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Pensez-vous que l'adoption par le Congrès de la délibération pour valoriser le travail des personnels des hôpitaux va permettre de stabiliser les effectifs ? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier, à présent, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'une solution va être trouvée pour la reprise du trafic d'Aircal vers les îles Loyauté. Ils sont 3% à penser qu'aucune solution ne sera trouvée. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Dans l'actualité politique à présent, qui doit conduire la liste des partisans de la France dans la province sud pour les élections provinciales du 28 juin ? En proposant dans un communiqué que ce soit Génération NC, le parti de Nicolas Metzdorf, qui conduise la liste unitaire, Alcide Ponga a jeté un pavé dans la mare. Les réactions et les interrogations sont très vives et on assiste à une véritable guerre des communiqués, Léana Colombo.
Oui, dès hier matin, 3 membres du rassemblement de l'île des Pins ont exprimé leur désaccord avec cette ligne politique. Ils dénoncent une prise de position intervenue sans aucune concertation des militants et en totale rupture avec l'esprit de leur parti. Dans un communiqué, ils disent regretter profondément cette déclaration qui fragilise publiquement l'unité des non-indépendantistes en province sud. Ils dénoncent une attaque à peine voilée contre la présidente de la province sud, Sonia Backès. D'autres membres du rassemblement de l'île des Pins leur ont répondu en affirmant que sur le fond, leur critique repose sur une mauvaise compréhension du communiqué d'Alcide Ponga. La position du président du rassemblement ne casse pas l'unité des non-indépendantistes. Elle cherche au contraire à la renforcer et que l'unité doit se construire, pas seulement être annoncée, écrivent-ils. Réaction également de Lionel Pagalois, élu de la province sud et vice-président du rassemblement. Il affirme avoir découvert le communiqué du président du mouvement qui, selon lui, ne traduit pas du tout les décisions prises en réunion de bureau. Il annonce qu'il ne peut cautionner cette décision et qu'il quitte donc le rassemblement pour rejoindre le groupe loyal. communiste à la province sud.
Quant au président de Génération, il tente de calmer le jeu. Sur sa page Facebook, Nicolas Metzdorf écrit que la seule boussole qui doit nous animer est la victoire des partisans de la démocratie face à la voix de l'intolérance et du repli sur soi porté par le FLNKS. Il précise qu'à titre personnel, il est concentré sur les discussions actuelles avec l'État concernant la composition du corps électoral et qu'il y aura dans les prochains jours des discussions entre formations loyalistes afin de définir la meilleure stratégie possible pour les prochaines échéances. En bref, une mission de la délégation sénatoriale aux Outre-mer en Nouvelle-Calédonie et à Wallis et Futuna du 17 au 24 avril. La présidente de la délégation, Micheline Jacques, est accompagnée de 5 sénateurs, dont les 2 élus de Nouvelle-Calédonie, Georges Naturel et Robert Rowy. Des entretiens institutionnels, politiques et économiques sont au programme de la délégation qui arrive aujourd'hui et qui se rendra à Wallis du 18 au 20 avril. Cette mission vise à approfondir l'analyse des enjeux de coopération régionale dans le Pacifique, notamment dans les domaines institutionnels, économiques, diplomatiques, sécuritaires, scientifiques et éducatifs. Et toujours en bref, enfin, dans l'actualité judiciaire, un chauffard condamné à 7 ans de prison. En septembre 2024, il avait fauché un gendarme pour échapper à un contrôle à la fois. L'enquête avait été ouverte pour tentative de meurtre. Après 2 ans d'information judiciaire, les juges ont écarté l'intention d'homicide. Le ministère public avait requis 10 ans de prison, selon nos confrères de La Voix du Caillou. Le jeune de 26 ans, originaire de Canala, a finalement été condamné à 7 ans et conduit au camp Est. Il est 6h passé de 43 minutes. Merci d'écouter Radio Rythme Bleu. On va marquer une première pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité nationale mais aussi internationale avec cette annonce de Donald Trump ce matin. L'Iran accepterait de céder son uranium enrichi.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Envie de craquer sans culpabiliser ? Big Crush sur les prix du 2 au 26 avril. Des trouvailles pratiques et originales à prix irrésistible. Laissez-vous tenter par nos pépites. Coup de cœur garanti. Nouméa pas cher.
Vous voulez découvrir le golf gratuitement ? C'est possible, grâce aux journées portes ouvertes proposées par les golfs de Dimbéa et d'Eva du 25 avril au 10 mai. Venez passer une journée en famille ou entre amis dans un cadre verdoyant et paisible pour une initiation gratuite riche en émotions. Alors n'hésitez plus, inscrivez-vous et découvrez l'univers du golf. Réservez votre créneau de 1h dès maintenant à Dimbéa au 41 8000 ou à d'Eva au 20 70 16. A bientôt sur les greens.
Entrepreneur, dirigeant d'entreprise, vous souhaitez développer votre activité à l'international et faire de l'export votre prochain levier de croissance ? Rendez-vous à la CCI mardi 21 avril de 8h à midi pour la matinée de l'export. Les experts et partenaires de l'export seront réunis pour vous informer sur les parcours et les démarches à l'international, étape par étape, les financements, les stratégies ou encore les marchés porteurs. Venez échanger avec des spécialistes, assister à des mini-conférences, vous inspirer de témoignages et repartez avec des conseils concrets. La matinée de l'export, le rendez-vous incontournable pour initier ou développer vos démarches à l'international. Programme complet et inscription sur www.cci.nc.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
L'actualité à l'étranger, cette annonce importante ce matin. Donald Trump affirme que l'Iran accepte de céder son uranium enrichi. C'était l'un des points essentiels du plan américain et même une condition préalable à la fin de la guerre, selon Israël. Un peu plus tôt ce matin, le ministre de la Défense américain Pete Hegseth annonçait que les États-Unis allaient maintenir une pression maximale sur l'Iran et en particulier avec le blocus du détroit d'Hormuz.
Aussi longtemps qu'il le faudra, nous maintiendrons ce blocus, un blocus efficace. Mais si l'Iran fait le mauvais choix, il devra alors faire face à un blocus et à des frappes aériennes visant ses infrastructures, son réseau électrique et ses installations énergétiques.
Et par ailleurs, Donald Trump a également évoqué un cessez-le-feu temporaire au Liban. 10 jours de trêve, selon le président américain, qui s'est entretenu avec les dirigeants libanais et israéliens. Reste à savoir quelle sera précisément la réaction du Hezbollah maintenant. Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv.
Eh bien, la milice pro-iranienne a fait savoir qu'elle respectera le cessez-le-feu, mais à la condition qu'au préalable, l'armée israélienne cesse ses opérations. Côté israélien, l'annonce de la trêve a pris de court la classe politique. Plusieurs ministres auraient fait part de leur mécontentement. C'est par les médias locaux qu'ils ont ont été tenus informés et n'ont pas été convoqués pour débattre du cessez-le-feu. Certains d'entre eux ont demandé la tenue d'un vote au sein du cabinet sécuritaire, demande rejetée par Benjamin Netanyahou. Lorsque le plus grand ami d'Israël, le président Trump, agit aux côtés d'Israël et en étroite coordination avec nous, Israël coopère. C'est ce qu'aurait dit le chef du gouvernement à ses ministres. Mécontentement et inquiétude également du côté des habitants du nord d'Israël, régulièrement pris pour cible par les roquettes du Hezbollah. Les élus locaux protestent, eux et leurs administrés, estiment que l'interruption des combats est prématurée et qu'elle permettra à la milice chiite de se réorganiser. Pendant la période de la trêve, l'armée israélienne restera déployée dans le sud Liban, ce qui ne suffira pas manifestement à rassurer les Israéliens dans la zone frontalière. À noter également que Benjamin Netanyahu vient tout juste de s'exprimer dans une allocution télévisée. Le Premier ministre a évoqué une occasion historique de parvenir à la paix avec le Liban.
Frédéric Simon, le correspondant d'Europe 1 en Israël. L'Élysée qui réagit également après cette annonce de cessez-le-feu. Cette trêve est une excellente nouvelle qui devrait être vérifiée sur le terrain. La Commission européenne fait part de son côté de son soulagement. Il y a donc à ce stade des cessez-le-feu actés sur les deux principaux théâtres de guerre au Moyen-Orient, au Liban et en Iran. Les discussions directes devraient reprendre prochainement entre Washington et Téhéran pour aller au-delà des 15 jours de trêve déjà validés. Israël qui presse Téhéran de renoncer à l'arme nucléaire, faute de quoi l'armée israélienne procédera, je cite, à des frappes encore plus douloureuses contre de nouvelles cibles.
Info matin, 6h46.
L'actualité en métropole marquée par ce meurtre en pleine rue hier soir pour nous à Neuilly-sur-Seine. Deux hommes sur un scooter ont fait feu sur la victime. Il s'agit d'Éric Robic, un homme de 51 ans, bien connu de la justice, condamné à de nombreuses reprises. Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
12 condamnations en tout depuis 1994, la plus connue en 2014, 5 ans de prison pour homicide involontaire dans l'affaire Zetouni. Souvenez-vous, cette affaire très médiatisée, Éric Robic avait mortellement fauché une jeune Israélienne de 25 ans à Tel Aviv en 2011, un accident qui avait suscité de fortes tensions diplomatiques entre la France et Israël. Le sulfureux homme d'affaires a donc été abattu ce matin. Deux hommes à bord d'un scooter lui ont tiré dessus avant de prendre la fuite. Les enquêteurs sont actuellement sur leurs traces, comme l'explique Laurent Lefebvre, policier du syndicat Alliance.
Tous les moyens vont être déployés. L'exploitation de la vidéosurveillance, tout ce qui va être géolocalisation d'éventuels téléphones, pourquoi pas du véhicule, si toutefois le véhicule, on a un semblant de plaque d'immatriculation ou du modèle, tout ça, c'est des pistes qu'on va forcément exploiter.
Selon les informations d'Europe 1, un scooter calciné qui pourrait être celui des suspects a été découvert en fin de matinée dans un parking du 17e arrondissement de la capitale. L'enquête se poursuit sous la houlette du parquet de Paris.
L'actualité, c'est aussi cette ambiance électrique à l'Assemblée nationale avec d'abord ce retournement de situation in extremis sur la proposition de loi Yadam pour mieux lutter contre l'antisémitisme. Elle devait être examinée il y a quelques heures. Oui, mais voilà, devant le risque de débats trop enflammés, le groupe Ensemble pour la République a fait le choix de la retirer. Retirer pour l'instant, car le gouvernement a pris l'engagement de proposer un projet de loi fin juin, Maïalène Trémollet.
Oui, le retrait plutôt que le pugilat, c'est le pari gouvernemental face à un groupe LFI décidé à empêcher l'examen du texte qu'ils accusent d'entraver la liberté d'expression. Malgré ce revers, l'essentiel est préservé pour la députée Caroline Yadam, auteure de la proposition de loi.
Je me réjouis. Le gouvernement va continuer à porter ce sujet dans le cadre d'un projet de loi qui aura une force pour dire à la France que la lutte contre l'antisémitisme doit être une lutte globale. LFI a perdu.
Prochaine étape, le dépôt de ce projet de loi en juin, sans doute devant le Sénat cette fois. Manière pour le gouvernement de tenter de contourner une assemblée très fracturée sur le sujet. Toujours est-il qu'après le recul de Matignon sur le 1er mai et la suppression de l'amendement sur les ZFE contre l'avis gouvernemental en début de semaine, ce retrait du texte sonne comme un troisième camouflet pour Sébastien Lecornu et ses ministres qui avancent depuis leur nomination sur une ligne de crête.
Maïalène Trémollet pour Europe 1. Une réception à l'Élysée quelques semaines après les élections municipales. 500 maires, fraîchement élus ou réélus, de tous bords, issus de communes urbaines ou rurales, étaient réunis par Emmanuel Macron. L'objectif du président de la République, apporter un soutien appuyé à ceux qu'il considère, je cite, comme des alvéoles du poumon démocratique du pays. Le président de la République qui s'est exprimé devant ses convives, Arthur Delaborde pour Europe 1.
Entre Emmanuel Macron et les maires, la relation a longtemps été une histoire de rendez-vous manqué, et alors qu'il entre dans la dernière année de son deuxième mandat, le président veut restaurer le lien avec les élus locaux en se posant en garant de leurs actions.
Je veux ici vous encourager, vous dire qu'on est à vos côtés pour pouvoir justement à la fois développer vos projets, mais bâtir ce lien. Vous êtes les garants de ce lien, de ce qui nous réunit et qui doit aller avec de l'apaisement, avec une ambition comprise, partagée par tous, mais avec la volonté qu'on se tienne tous ensemble dans la même cité.
Sa politique en faveur de l'indépendance de la France, est-ce que le chef de l'État veut que l'on retienne de la décennie Macron? Et c'est le principal message qu'il veut transmettre aux maires, mettant aussi en avant une philosophie.
Comment nous pouvons vivre dans une nation qui a su faire des Jeux Olympiques et Paralympiques extraordinaires en 7 ans, qui rebâtit Notre-Dame en 5 ans, et à qui on dit un agriculteur qui veut étendre son poulailler, ça sera 5 ans. Philosophie Notre-Dame. Méthode Notre-Dame, méthode Jeux Olympiques, mais partout en France. Pour donner de l'espoir à vous, à vos administrés, on doit aller beaucoup plus vite.
Autre promesse faite au maire, protéger la nation et son avenir. Le président met en avant son bilan en matière de sécurité. Il dit vouloir poursuivre la révolution de ces dernières années en améliorant les relations entre police municipale et police nationale.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Dans l'actualité économique, un symbole qui sonne peut-être le glas de l'industrie automobile française, Stellantis, sonne la fin de la production dans l'usine de Poissy. Plus aucune voiture n'en sortira dès 2028. Sur les 1580 ouvriers, 1000 conserveront leur poste dans un projet de transformation. Économie toujours, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient. Après l'essence, le lait. Les prix des produits Lactalis seront impactés pour les consommateurs, prévient son patron Emmanuel Beignet. Le surcoût lié au conflit est chiffré à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Un autre responsable de Lactalis précise toutefois que ce coût sera minimisé au mieux. Il est 6h52, on va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir la suite de l'actualité sur le territoire.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Vous rêvez d'une salle de bain moderne? DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pare-douche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Peugeot, Subaru, Citroën, Chevrolet, Isuzu et plein d'autres grandes marques automobiles vous donnent rendez-vous les 23, 24, 25 avril prochains pour le Salon du Village Automobile. Le Salon du Village Automobile, c'est vraiment le rendez-vous auto. 11 grandes marques sur un seul site, un grand parc d'occasion, des offres uniques jusqu'à 1 million de francs de remise, de grandes nouveautés à découvrir en exclusivité et nos partenaires financiers pour simplifier vos projets. Animation, jeux, surprises pour toute la famille et 1 million de francs de carburant à gagner. Entrée gratuite, ouverte toute la journée dès 7h30. Le grand Salon du Village Automobile, c'est du 23 au 25 avril au PK4 à Nouméa.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Tirage au sort le 30 avril. Valeur totale du lot, 1 million de francs. Règlement disponible sur cph.nc ou chez Maître Citrita.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Avec You by Cotex, restez ultra connectés. Jusqu'au 8 juin, tentez de remporter un iPhone 17 Pro, un MacBook Air 13 ou des AirPods Max. Pour participer, c'est simple. Il suffit de remplir le formulaire sur jouer.nc. Plus d'infos sur le Facebook Sakebon NC. Règlement complet, déposé chez Maître Citrita.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Info matin, la suite de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Et dans les institutions, la nouvelle équipe élue à Dimbéa continue de se mettre en place. Son deuxième conseil municipal s'est tenu hier soir, Léana Colombo.
Comme à chaque début de mandature, le premier conseil sert à désigner le maire et ses adjoints. Le second permet quant à lui de fixer le montant de leurs indemnités. Tout cela est assez encadré. Les indemnités sont calculées en fonction du nombre d'habitants de la commune. Mais il est tout de même possible de faire quelques économies. C'est ce qu'a fait l'équipe de Cynthia Jean. Hier soir.
Oui, on a une enveloppe qui est destinée à la rémunération du maire et des adjoints. Moi, j'ai souhaité ne pas utiliser la totalité de cette enveloppe. Ça permet à la ville de Dimbéa de faire une économie sur la masse salariale. Alors, le montant total pour la rémunération du maire, des adjoints et des conseillers délégués est par mois de 4 177 000. Et nous utilisons 3 172 000 pour notre rémunération. Donc, on permet une économie sur la masse salariale d'1 500 000 francs exactement.
Rapporté au mois, l'indemnité du maire est donc de 591 000 francs, celle du premier adjoint de 288 000 francs et celle des autres adjoints de 216 000 francs. Après cela, les élus ont désigné les membres des commissions sécurité, urbanisme, lien social. Les commissions se réunissent une fois par mois et les élus peuvent y débattre des points qui seront ensuite votés pendant les conseils. L'équipe de Cynthia Jean a procédé à quelques réajustements.
Oui, nous avons choisi de proposer 3 commissions permanentes. On a supprimé une commission par rapport à la mandature précédente parce qu'on s'est aperçu que certaines commissions ne se réunissaient pas souvent. On a fixé le nombre d'élus par commission à 10, permettant ainsi à chaque liste d'être représentée au sein de chacune des commissions. Alors nous réunissons les commissions dès demain matin. Il s'agit de mettre en place les commissions en élisant président, vice-président et rapporteur. Et nous seront ainsi complètement installés et les élus vont pouvoir tous commencer à travailler concrètement sur des dossiers.
À la fin de la séance d'hier, les conseillers ont élu les représentants siégeant au sein des organismes extérieurs comme le SMTU, le CIGN ou encore Scalaire. Puis ils ont procédé à l'élection des représentants qui siégeront au conseil d'administration du Centre communal d'action sociale. Il y aura 4 membres du groupe majoritaire Unir pour l'avenir. À la caisse des écoles, il y aura 5 élus, 4 de la majorité et 1 du groupe de Yoann Lecourieux, d'Imbéa avant tout.
Et j'ajoute que c'est le nouveau maire d'Imbéa, Cynthia Jean, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Alors comment interprète-t-elle sa victoire et quelles sont ses priorités et ses projets pour la commune? Ce sont quelques-unes des questions qui lui seront posées. Une interview de Cynthia Jean à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Et puis à Païta aussi, après l'élection du nouveau maire et de ses adjoints le mois dernier, les élus se sont réunis pour un nouveau conseil municipal hier soir, Léana.
Oui, à l'ordre du jour, des délibérations administratives et techniques obligatoires en début de mandat, telles que la désignation des membres des commissions permanentes. Et pour cette mandature, il n'y a plus que 4 commissions contre 11 auparavant. Un choix délibéré du nouveau maire de la commune qui a décidé d'intégrer à la place des comités consultatifs. Antoine Romain, maire de Païta.
Nous avons décidé, avec la majorité, mais aussi en accord avec une partie de ce qu'on appelle l'opposition, de diminuer le nombre de commissions permanentes, mais surtout d'ouvrir à la société civile au travers des comités consultatifs. Nous en avions très peu auparavant, nous en avons désormais plus d'une dizaine, qui vont nous permettre, selon les mêmes modalités de représentation des élus que sur les commissions obligatoires et les commissions permanentes, de pouvoir intégrer en grande partie la société civile, les associations, pour qu'ils puissent effectivement travailler avec nous, les élus, sur les décisions qui seront prises au cours de cette mandature, qu'il s'agisse du sport, des loisirs, de la culture, du handicap, de la scolarité, de l'enseignement. Sur toutes ces grandes thématiques, nous avons souhaité ouvrir la société civile pour pouvoir travailler de concert avec les administrés de Païta.
Les premières commissions permanentes se réuniront en fin de semaine prochaine, les comités consultatifs la semaine suivante, avant le prochain conseil municipal qui se déroulera le 18 juin prochain.
Radio Rythme Bleu, 6h57.
Et enfin, un coup de pouce pour les associations. Le Haut-Commissariat lance un module pour accompagner les bénévoles dans leur recherche de financement. Il est parfois difficile pour les structures de tourner uniquement avec des dons, mais les démarches pour obtenir des aides publiques sont complexes. Le collectif des associations de Nouvelle-Calédonie et la FOL sont missionnés par le Haut-Commissariat pour former les bénévoles qui le souhaitent. Une première réunion d'information sera d'ailleurs organisée à la fin du mois. Écoutez Jean-Brice Perrano, le directeur de la FOL.
L'idée de départ, c'est vraiment de soutenir les associations dans leurs compétences et dans leurs démarches, puisque aujourd'hui, elles vivent pour certaines uniquement sur des aides publiques qui ont pour beaucoup disparu ou qui ont tendance à baisser. Donc les accompagner pour que leur dossier soit le mieux fait possible, le plus adapté aux attentes, à la fois dans le fond et dans la forme. Alors on a un premier temps qui va être une réunion d'information, donc là pour l'ensemble des associations de tout le territoire. Ce temps-là, il va être justement pour expliquer la démarche, voir aussi les profils des associations, qu'elles puissent commencer à poser des questions. Et ensuite, il y a un temps dédié justement ensuite en module 2, qui se fera dans le prolongement début mai, pour accompagner plus spécifiquement sur les demandes d'aide. Et puis le module 3 en suivi individualisé, là ce sera plus une personne qui représentera l'association. Selon les inscriptions, on pourra peut-être élargir à deux, mais pour l'instant on est vraiment resté sur un représentant de l'association qui sera défini.
Et la première réunion se tiendra en présentiel à la FOL le jeudi 23 avril, une autre en webinaire le 28 avril. Et il faut s'inscrire via un Google Form que vous trouverez sur le site internet ou la page Facebook de la FOL. 6h59, une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. Et ce sera bref avec du football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Stop aux hôtels classiques et aux petites chambres. À l'hôtel du centre, profitez de studios 3 étoiles de 30 mètres carrés avec vraie cuisine, lave-linge, sèche-linge, parking et wifi gratuit. Hôtel du centre, tout le confort au meilleur rapport qualité-prix. Réservé au 230-700 ou sur www.hôtelducentre.nc.
Parce que chaque instant compte, AXA protège ce qui est précieux. Votre famille, votre santé, vos biens et votre épargne. AXA, plus qu'une assurance, un partenaire de confiance au quotidien.
Optique Boulary, la solution pour vos lunettes avec contrôle de la vue, même sans ordonnance. Vos marques préférées, Oakley, Maui Jim, Michael Kors, Ray-Ban et votre seconde paire, offertes toute l'année. Optique Boulary, l'opticien du Mont d'Or.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Nicolas Legrand.
Le sport, c'est du football et les quarts de finale retour de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence ce matin. Dans cette dernière compétition, il reste un club français, Strasbourg, qui accueille Mayence depuis 6 heures. Les Strasbourgeois qui s'étaient inclinés 2-0 à l'aller et qui ont fait leur retard en première mi-temps. Ils mènent donc 2-0. Tout reste à faire, 45 minutes de jeu. On signalera la qualification pour les demi-finales du Shakhtar Donetsk après un match nul, 2-2 face à Alkmaar. Le Shakhtar Donetsk s'était imposé 3-0 à l'aller. Et puis en Ligue Europa, qualification de Fribourg après sa victoire 3-1 face au Celta Vigo.
Socaport Peinture vous présente la météo. Socaport Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soiti, Lunicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socaport Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, large soleil sur la majorité de la Grande Terre pour ce matin, des passages circulant quand même et donnant quelques gouttes, ce sera sur le nord-est et aux loyautés uniquement. L'alizé orienté est-sud-est autour des 15 nœuds, voire sur le nord-est et aux loyautés 15 à 20 nœuds. Cet après-midi, large éclaircie résisteront encore, mais des nuages et faibles averses s'inviteront sur l'est, le nord et aux loyautés. L'alizé toujours est-sud-est, toujours entre 15 et 20 nœuds en général, les températures elles comprises entre 28 et 30 degrés.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal.